Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et si en cette période heurtée, où notre société est plus que jamais fracturée, la politesse nous aidait à naviguer dans ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipel français, cette France éparpillée façon puzzle qui n'arrive plus à se parler. Car, comme nous le rappelle André Comte-Sponville, la politesse est la première vertu, à l'origine peut-être de toutes. Parmi ces vertus, le respect d'autrui, sans lequel toute société serait invivable. Mais la politesse, cette huile essentielle aux relations sociales, est parfois mal vue, car synonyme d'hypocrisie, de duplicité ou encore d'inauthenticité. Et pourtant, que serait une société sans « je vous remercie », « s'il vous plaît » ou « après vous » ? Après vous, justement, cette formule de politesse qui devrait être la plus belle définition de notre civilisation, écrivait le philosophe Emmanuel Lévinas. Ce matin, nous explorons les bienfaits de la politesse, ses différentes facettes, et puis nous verrons comment ne pas tomber dans l'obséquiosité façon Louis de Funès avec les puissants. N'hésitez pas à partager votre sentiment sur la politesse. Trouvez-vous que nous vivons dans une période d'impolitesse, ou est-ce pour vous un poncif ? Trouvez-vous, comme Ambrose Bierce, que la politesse est la plus acceptable des hypocrisies ? 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser un message vocal sur l'appli France Inter. Bonjour, cher Marie-Laure Sunshine.
Ali, place m'est heureuse à vous y rencontrer. Sinon, je peux me contenter d'un « wesh », Ali. C'est aussi dans le dictionnaire, j'ai lu.
Et je vous saurais gré de présenter un avant-goût de vos questions pertinentes.
Oh, mais nous allons parler, évidemment, bienfaits de la politesse, formule de politesse et puis excès de politesse.
Bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali.
Auriez-vous l'amabilité de partager le contenu de vos choses presque
vues ? Il n'en est pas question une seule seconde. Nous allons parler équitation et clerc de notaire, si ça ne vous dérange pas. Je le ferai avec grand plaisir, merci beaucoup.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Il n'y a qu'en France aussi où il existe autant de formules de politesse. Des fois, même entre deux étages, dans un ascenseur, tu peux en faire 9 des formules de politesse. Tu sais, tu rentres, bonjour, pardon, excusez-moi, pardon, quel étage ? 2e, merci, t'attends un peu, oups, pardon. T'arrives, les portes s'ouvrent, excusez-moi, je vais sortir, c'est à moi de sortir. Ben oui, je vais vous laisser passer, ben merci, attention, pardon, excusez-moi, bonne journée, ben vous aussi, merci, au revoir, à bientôt, merci, pardon.
Bonne journée, bonne fin de semaine.
Vous aurez reconnu Gad Elmaleh. Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour.
Vous êtes lexicologue, historien de la langue française, professeur émérite à l'université de Cergy-Pontoise et vous publiez chez Taillandier « La politesse au fil des mots et de l'histoire ». On n'est jamais trop poli ?
Non, jamais trop poli, et en quelque sorte, c'est aussi une manière de doser les choses, hein, il faut le faire gentiment. La politesse de cœur, c'est peut-être le plus important.
Bonjour Dominique Picard.
Bonjour.
Vous êtes psychologue social, professeur émérite à l'université Paris 13, et vous avez publié le Que sais-je, politesse, savoir-vivre et relations sociales. Bonjour Olivier Babot.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur d'économie et de gestion à l'université de Bordeaux, président de l'Institut Sapiens, et vous avez publié un éloge de l'hypocrisie, c'était chez...
Le cerf.
Alors Jean Pruvot, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre consacré à la politesse?
Alors, il y a une anecdote de départ. Quand j'ai passé mon permis de conduire, il y a quelques décennies, l'examinateur me demande où je suis né. Je suis né à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Et il me dit « Ah, vous êtes né dans la ville où on enterre les rois, mais vous n'en avez pas la politesse. » Et là, je suis resté interdit parce que je me suis demandé ce que j'avais fait. Est-ce que j'avais une main dans la poche ? Est-ce que je m'étais gratté l'oreille ? Est-ce que j'avais oublié de dire « Monsieur l'inspecteur ? » Est-ce que c'était ma tenue, jambes trop écartées ? Enfin bref, je n'ai pas su. Je crois qu'en fait, j'étais considéré comme... Tant arrivé en retard, mais ce n'était pas de ma faute. Mais en tout cas, ça suggérait de faire un livre, et puis aussi parce que je crois qu'on dit beaucoup de choses sur la politesse sans penser que c'est pas simplement les civilités. C'est très souvent qu'un bus, quelqu'un, le chauffeur s'arrête pour me laisser entrer parce que je suis arrivé très en retard. Eh bien, je suis très heureux dans ce cas-là de cette forme de politesse.
Olivier Babot, alors des clashs télévisés, des affrontements haineux sur les réseaux sociaux, la politesse apparaît comme hors du temps, presque ringarde.
Oui, la politesse, elle n'a pas tellement bonne presse aujourd'hui. En fait, la politesse, c'est l'anti-McDonald's. Hein. McDonald's, c'est venez comme vous êtes. Et la politesse, c'est l'injonction de surtout ne pas être comme vous êtes. En tout cas, de ne pas avoir l'impolitesse, justement, d'introduire votre moi en rugosité avec l'autre quand vous le croisez. Et donc, évidemment, ce n'est pas du tout dans l'air du temps, parce que ça paraît, justement, être une forme de mensonge, une forme de prise de distance hypocrite. Et donc, elle n'a plus tellement bonne presse.
Dominique Picard, elle a plus bonne presse, la politesse ?
Ben, ça dépend à quel niveau on l'apprend. La politesse, Olivier Babot a tout à fait raison. On ne se vante pas d'être poli, même on se moque des gens trop qu'on considère comme trop polis. Mais il n'empêche que on dit aussi que les gens sont pas polis, qu'ils étaient plus polis autrefois, et ça prouve bien qu'elle manque, donc qu'elle est utile. Mmh.
Alors le mot politesse vient de l'italien politezza, de polito qui veut dire poli. La politesse, Jean Pruvost, ça sert à polir les relations sociales bien souvent rugueuses.
Alors de manière curieuse, l'adjectif poli et impoli, lui vient vraiment du latin polire, qui était au départ rendre la laine lisse en tapant sur la laine de mouton. Donc ça part du mouton, c'est assez doux. Et puis lorsqu'on au Moyen-Âge on dit qu'une dame est polie, ça signifie qu'elle a le visage lisse. Et puis viendra le moment où du côté italien, il y a la même évolution. Mais là, effectivement, petit à petit, on arrive vers la politesse de style. Et puis pour revenir à ce qui vient d'être évoqué de manière plus que pertinente. La politesse, effectivement, c'est un peu ce que Schopenhauer évoque avec les porcs-épics qui sont là et qui ont besoin d'être ensemble, de se réchauffer. Mais il ne faut pas être trop près non plus, ni trop loin. Trop près, ils vont se piquer, et trop loin, ils vont avoir froid.
Et ça sert donc à polir les relations sociales, cette
politesse. Oui, c'est tout à fait ça l'origine, polir les relations sociales et faire en sorte qu'on soit attentif à l'autre.
Olivier Babot.
Oui, d'ailleurs, en anglais, rude, c'est bien de cette idée, probablement d'ailleurs un mot français qui a été repris comme, je crois, 50% de la langue anglaise, d'ailleurs, qui vient à cause de Guillaume le Conquérant. Mais il y avait cette idée que la politesse, elle va médier les contradictions, elle va aplanir les difficultés et elle va permettre une forme pas de liquéfaction, mais de plus grande fluidité, exactement. C'est le mot que je cherchais entre les gens. C'est ça qu'on cherche, en fait.
Dominique Picard. Ouais.
Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé l'histoire de la laine des moutons et puis de la dame qui avait le visage lisse, parce que c'est une règle qu'on trouve dans la politesse, on ne doit pas montrer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Il s'agit, la politesse c'est un ensemble de règles faites pour que tout aille bien en surface, entre les gens, on s'occupe pas de l'intérieur. Alors, moi, je mets au même niveau, on n'a pas le droit de roter en public, et on n'a pas le droit de montrer sa mauvaise humeur en public, parce que ça gêne, parce que ça ne regarde personne, mais on ne vous dit pas, il est mal de roter, ou il est mal d'être de mauvaise humeur. On vous dit simplement, vous faites la séparation, et vous n'exhibez pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Et pour vous, Dominique Picard, la politesse est aux relations sociales ce que la grammaire est à la langue.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un code qui permet d'échanger, qui permet de se comprendre. C'est pour ça que si on ne regarde que le code, on trouve ça ridicule d'être obligé. Le petit extrait très amusant que vous avez montré au début, pardon, merci, s'il vous plaît, je vous en prie, etc. Si on reste dans ces règles de surface et si on ne va pas comprendre ce qu'il y a en dessous, ben ça semble ridicule. Mais ce code est nécessaire parce que pour vivre bien avec les autres, il faut que ce soit fluide. Donc on doit se comprendre. Et pour se comprendre, il faut un code. C'est comme le langage. Si je me mets, ce dont je serais bien incapable de faire, de vous parler en volapuc, vous n'allez rien comprendre à ce que je vais vous dire. Pour qu'on se comprenne, vous et moi, qui sommes français, eh bien, il faut qu'on utilise le code de la langue française. Ben, de la même façon, dans notre civilisation française, par exemple, nous utilisons le code de relationnel qu'on peut appeler la politesse. On pourrait trouver d'autres mots. Il y en a bien d'autres pour désigner tout ça.
Et je rappelle la définition du Robert de la politesse, c'est l'ensemble des règles qui régissent le comportement, le langage à adopter dans une société. Jean Pruvost.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Et il y a une phrase d'un prix de l'Académie française en philosophie, parce que je crois que la politesse touche l'économie, la philosophie, l'histoire, la géographie. C'est vraiment un concept premier, hein. Une science de vie aussi, comme on dit parfois. Voilà ce que disait donc Gustave Thibon. La Terre deviendrait inhabitable si chacun cessait de faire par politesse ce qu'il est incapable de faire par amour. Mais inversement, le monde serait presque parfait si chacun arrivait à faire par amour ce qu'il fait par politesse. Et je trouve qu'effectivement, la politesse, c'est un effort de toute une vie. Bon, de la même manière que l'orthographe, la grammaire, il faut pas conspuer ceux qui ne sont pas polis ou ceux qui font des fautes d'orthographe. Faut nous aider tous à l'être davantage.
Olivier Babou. Peut-être que la politesse est le ciment de la société comme l'amour est le ciment de la famille en quelque sorte, mais ce qui est intéressant c'est que la politesse semble séparer puisqu'elle fait qu'on va pas exactement qu'on va dissimuler en quelque sorte alors que en réalité c'est un prodigieux instrument de mise en relation, c'est un peu l'équivalent ou le complément de ce qu'on appelle les small talk, hein, enfin les petites, comment dire en français d'ailleurs, la petite conversation, le petit truc, hein, oui. Voilà, quand vous échangez avec le boulanger vous dites ah comment ça va, le temps, etc. Et ben le complément c'est la politesse, puisque c'est celle justement qui va vous mettre en relation. Vous savez, quand on lève la main droite, d'ailleurs, je suis gaucher, mais quand on lève la main droite, c'était pour dire, regardez, je ne suis pas armé.
Oui, c'est ça.
C'était une façon de montrer qu'on avait sans hostilité. La politesse, elle est ce signe permanent qu'on n'est pas hostile vis-à-vis des gens, et ça, c'est évidemment, ça crée le bien-être social, en fait.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que, si vous voulez, cette fameuse poignée de main, au départ, c'est les chevaliers qui montrent qu'ils n'ont pas d'armes dans la main. Alors, je dirais qu'il y a la politesse consciente et inconsciente. La politesse consciente, c'est celle qui consiste à mettre en place, évidemment, le meilleur être de celui qui est en face de vous. Mais la politesse inconsciente, c'est le temps de regard interoculaire. C'est combien de temps va durer la poignée de main? À quelle distance je me mets? Et ça, d'un pays à l'autre, c'est très différent. Du coup, ça s'apprend.
Alors, je m'adresse à la psychologue sociale éminente que vous êtes, Dominique Picard. À quoi ressemblerait un monde sans politesse?
Oh là là, ça serait abominable. Si chacun était complètement spontané, ben, imaginez que mon café était brûlant ce matin et qu'en plus il fasse froid et il pleuve, vous me dites gentiment bonjour et je vous réponds « Ah non, ne me parlez pas, hein, laissez-moi tranquille ». Non mais c'est insupportable. Donc on n'a pas à imposer aux autres sa mauvaise humeur, mais on n'a pas non plus à leur imposer notre trop plein d'amour. Nous sommes actuellement à la radio, ça vous gênerait beaucoup si je disais publiquement à quel point je vous aime. Donc,
et on serait jaloux.
Oui, il faut pas.
Et Dominique Picard, pourquoi au fond est-on si heurté par un manque de politesse si par exemple on ne répond pas à mon bonjour ou à mon merci? Pourquoi ça fait si mal?
Ah, ben ça fait si mal parce qu'on ne se sent pas reconnu, on ne se sent pas regardé.
Respecté.
Quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est pas pour lui souhaiter une bonne journée, c'est simplement pour lui signifier que on le reconnaît, qu'il existe à nos yeux. Si on ne lui dit pas bonjour ou si on ne répond pas à son bonjour, ben c'est une façon de lui signifier qu'il n'existe pas pour nous. Je vais prendre une analogie. Vous savez, on a tous vécu ça, quelqu'un qui vous regarde et qui vous donne l'impression de passer à travers vous. On se sent, ça fait une impression très bizarre. Quelqu'un qui n'utilise pas les codes habituels de politesse, ça fait la même impression. Si je bouscule quelqu'un dans le métro et que je lui dis pas excusez-moi, même si je lui ai pas fait mal, même si c'est pas grave, ben il va avoir l'impression que je ne le considère pas mieux que le papier gras sur lequel j'aurais pu marcher par terre.
Ne pas être poli, Dominique Picard, pardonnez-moi de vous interrompre, ne pas être poli, c'est une forme de violence symbolique, c'est faire perdre la face à l'autre.
On peut le dire comme ça. C'est une violence symbolique qui, bien sûr, qui lui fait pas perdre la face, mais qui va beaucoup plus loin, qui le nie, du verbe nier, qui le nie en tant qu'être humain. Et ça, c'est insupportable. Alors, pourquoi c'est insupportable? On va pas ouvrir ce genre de piste, mais on peut le dire en passant. On a besoin d'être reconnu par les autres pour se sentir exister. Mais si on développe, ça fait l'objet d'une autre émission.
Olivier Babou.
C'est intéressant parce que quand on parle de perdre la face, par exemple, on pense rapidement à des cultures asiatiques où c'est extrêmement important. Et justement, il y a ce livre de François Julien, le sinologue, qui s'appelle Le détour et l'accès, et qui montre justement qu'il y a deux façons de penser très différentes et que la façon de penser autour autour du dialogue grec et l'opposition des sens et l'opposition des arguments, qui est effectivement dialectiquement extrêmement intéressant souvent, mais qui aussi provoque des oppositions, alors que la pensée chinoise, elle est beaucoup plus par allusion et par accord autour justement de ce qui n'est pas dit, parce qu'on va utiliser un code commun. Et ça, c'est très intéressant de voir justement que ça fonde probablement la place fondamentale de la politesse, bah aussi au Japon d'ailleurs, hein, par exemple.
Jean Prévost.
Oui, alors c'est très vrai que dès qu'on quitte l'Europe et qu'on passe en Asie, on a un autre type de politesse. Un Chinois ou un Japonais ne vous dira jamais non. C'est impossible. Il rira. Il faudra interpréter ce rire. Politesse, refus, etc. Bon, on sait aussi que en Chine, parfois ça nous fait sourire. Il est de bon ton de montrer une sorte de valorisation de son invité en méprisant sa misérable épouse ou son misérable fils, son vermisseau de fils. Bon, tout ça faisait sourire au 19e. Bon, maintenant, évidemment, c'est un petit peu passé de mode, mais ça a quelque chose de charmant. Le fond est le même, c'est surtout valoriser celui qui est en face et peut-être s'oublier.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, concernant finalement ce que j'appellerais les traits de caractère. Autrement dit, sommes-nous tous égaux face à la politesse presque innée? Une personne timide, une personne humble aura cette spontanéité de la politesse. Elle va laisser parler l'autre, ne pas lui couper la parole, avoir ce temps dont vous parliez, on y reviendra sans doute tout à l'heure, ce temps d'écoute aussi. C'est facile pour certains, beaucoup plus compliqué pour d'autres.
Oui, alors je dirais que c'est comme pour l'orthographe. Il s'agit à celui qui a le plus de facilité d'aider celui qui en a le moins. Et d'une certaine façon, il suffit parfois d'un sourire, il suffit parfois d'un geste pour que le timide puisse un peu s'exprimer. Et puis il y a ce qui s'exprime par les yeux, par la manière d'être. On voit bien que, par exemple, au 17e, on opposait la ville et la campagne. Il y avait le rat des villes, le rat des campagnes. Et évidemment, à la campagne, on était supposé être peu poli. Et Alain, le philosophe, dit encore que un provincial, alors ça c'est quelque chose qui pour nous maintenant est insupportable, n'oublie jamais la ville où il est devenu poli. Bon, vous voyez où on en était. Donc là, il y a vraiment une politesse de la manière d'être, du geste qu'on trouve chez les paysans qui n'ont pas forcément les mots pour le dire. Et parfois, entre le noble et le paysan, où il y a un discours, évidemment, qui est acquis depuis plusieurs générations, et un paysan qui a son autre forme de politesse, mais parfois il y a la compréhension quand même. Si le cœur y est, dans le fond, bon, la politesse y gagne.
Olivier Babou.
C'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que la politesse, elle est un outil d'égalisation et justement pour empêcher des effets de dominance de certaines personnalités par rapport à d'autres, puisque justement, par exemple, la conversation polie, c'est de savoir ne pas se mettre en avant soi-même en permanence. Si on se rend compte dans une conversation, la lumière est trop sur vous, la politesse, c'est précisément de la déporter.
Oui. Hein,
et donc, c'est justement l'apprentissage de la répartition des considérations. Donc, c'est en ça que c'est une puissance égalisatrice, en fait.
Hein. En tout cas, Éric Libio vous écoute poliment et ne vous coupe pas la parole. Dans un instant, nous verrons si la politesse est une hypocrisie nécessaire à la vie sociale. En attendant, on écoute Bob Dylan, I Want You, à 10h23. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. They've gone down to love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the queen of spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing
She doesn't see, she knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now you're dancing child with this Chinese suit. He spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, or was I? But I did it because you lied, because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Bob Dylan interprété I Want You, et vous me faisiez part d'une réflexion, Eric Liblio, à antenne.
Non, j'assistais à un concert où Bob Dylan, quand il rentre sur scène, il dit pas bonjour, il dit pas merci, il dit pas au revoir, et parfois il chante même des chansons d'eau au public. Ce qui est un manque de politesse, me semble-t-il.
Qu'est-ce que c'est ?
Oysters à la parisienne.
Grand bien vous fasse.
Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait.
Ali Rebéi.
Ah, ça c'est étonnant. Oh là là. Que c'est bon. Voilà. Oh, yeah, yeah.
Sur France Inter.
Très poli, Louis de Funès, et ce matin on s'intéresse aux bienfaits de la politesse. Et vous, trouvez-vous que l'on vit dans une époque de moins en moins polie, ou est-ce pour vous un poncif? 01 45 24 7000 ou en laissant un message sur l'appli France Inter.
Est-ce que je trouve que les Français sont polis? Plus ou moins, ça dépend. Je dirais vraiment 50-50.
Les Français en général, peut-être oui. Les Parisiens, pas toujours.
Non, non, ils ne sont pas polis.
Par exemple, hier, j'étais boire un coup sur une terrasse. Les garçons n'ont même pas pris la peine pour dire merci, au revoir.
Donc moi, ça m'est déjà arrivé de faire semblant de ne pas être française à l'étranger parce que j'avais honte de ma nationalité.
Alors j'ai une formule de politesse préférée, c'est avec plaisir.
Avec plaisir, j'adore dire, je suis serveur en extra et je dis tout le temps avec plaisir. Ouais, je trouve que c'est la plus belle.
Surtout le merci, je vous en prie, au revoir.
S'il vous plaît madame, merci. Il ne faut jamais oublier le madame ou le monsieur. Formule de politesse que je déteste.
Il n'y a pas de quoi, je trouvais ça... ça n'avait pas de sens en fait.
C'est service. Et là, j'ai horreur des gens qui répondent service quand on leur dit merci. Je trouve ça odieux, voilà.
Donc ouais, il n'y a pas de quoi, de rien, j'aime pas trop. Parce que ça veut dire, je le fais, c'est normal. Alors que non, je le fais parce que ça me fait plaisir. Voilà.
Je trouve qu'il y a beaucoup qui disent pas de soucis. Qui fait un peu bizarre pour moi.
Non, mais les Français sont peut-être pas polis, mais ils sont plus joueurs. Peut-être que des fois, il faut pas être super poli, quoi. Enfin, d'être dans la limite.
Propos recueillis par Alice Galtier dans les rues de Paris. Alors, Charlotte nous écrit... Non, pardon, pas Charlotte. Karine nous écrit « Pour moi, la politesse représente la règle de base de respect vis-à-vis des autres et la courtoisie est un bonus pour partager sa bienveillance ou sa bonne humeur. » Et d'ailleurs, elle se demande quelle est la différence entre la politesse et la courtoisie. Jean Pruvot, vous venez de publier la politesse.
Oui, alors, en vérité, le mot politesse étant apparu en 1578, elle existe quand même depuis l'Antiquité, peut-être même depuis la Préhistoire, et par conséquent, il y avait bien des mots pour l'utiliser, et pour la mettre en relief, c'était la courtoisie. On évoquait la courtoisie, et dès le 18e, vous avez les synonymistes, les gens qui font des différences entre les synonymes, je pense à Girard, qui disait, il faut être honnête sans cérémonie, civil sans importunité, poli sans fadeur, gracieux sans minauderie, affable sans familiarité. Et un peu plus tard, eh bien vous avez La Faille, toujours du côté des synonymes, qui disait que le mot courtois rajeunit. C'est-à-dire qu'il était passé de mode. La courtoisie, c'est la cour. C'est la façon dont on fait aussi un peu sa cour, d'ailleurs.
Bonjour Clotilde.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes enseignante en collège à Marseille et vous organisez dans votre collège la journée de l'élégance et de la courtoisie.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous un petit peu ça, Clotilde.
Eh ben, en fait, dans les collèges, il y a ce qu'on appelle les CVC, le Conseil de vie collégien. Mm-hmm. Donc, ce sont des élèves du collège qui se réunissent avec des adultes, donc généralement des enseignants, les CPE, enfin, les personnes volontaires, pour voir comment améliorer, animer la vie du collège. Et donc, le CVC de mon collège a décidé cette année d'organiser pour la première fois la journée de l'élégance et de la courtoisie. Donc, c'est une initiative des élèves.
Concrètement, comment ça se passe, Clotilde ?
Et ben concrètement, donc aujourd'hui, les élèves et les adultes du collège devaient s'habiller de manière élégante, sans que ce soit obligatoire, pour éviter parce que tout le monde n'a pas forcément les tenues dans son placard, donc on a dit aux élèves que c'était pas obligatoire, mais que donc il fallait être courtois toute la journée et que ça c'était obligatoire. Et donc l'objectif c'est que ce soit pas qu'une journée, mais que justement les élèves prennent conscience de l'importance de la courtoisie et que ça puisse se diffuser dans les habitudes tout au long de l'année.
Olivier Babot, vous prenez des notes pendant que Clotilde...
Moi, j'adore. Non, mais j'adore parce que effectivement, on dit aujourd'hui aux enfants soyez vous-même, et c'est important évidemment qu'ils découvrent qui ils veulent être. Mais c'est formidable aussi de leur dire mais oui, la vie c'est aussi des codes, et aussi des moments où vous n'êtes pas tout à fait vous-même. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la vêture, comme on disait autrefois, la façon de s'habiller, c'est aussi une forme de politesse. C'est aussi la façon dont vous allez rentrer en relation avec les autres. C'est Erasme qui avait écrit les civilités puériles déjà à l'époque. Et on parlait de civilité.
C'est ça.
Ça fait partie de la civilisation.
Jean Prouvot, votre regard sur cette initiative ?
Je trouve qu'elle est excellente parce que souvent les gens ont du cœur, ils veulent être polis, mais ils ne savent pas comment l'être. Et moi, le premier, il m'est arrivé d'être dans une instance un peu importante. Il y avait une dame, tout le monde faisait le baise-main à cette dame. Je me suis dit, moi aussi, je suis obligé de le faire. Et évidemment, quand vous faites un gros schmack sur le dos, ce que j'ai fait, vous vous apercevez que ce n'est pas du tout ça. Et après, vous vous renseignez, vous regardez les autres, vous dites, ah oui, c'est 7 cm à peu près, mais en tout cas, ce n'est pas un vrai baise-main. Et moi, qui suis affectif, qui fait la bise facilement, évidemment, je n'avais pas compris
D'où l'utilité des manuels de savoir-vivre. Merci beaucoup, Clotilde, de nous avoir appelé ce matin. Charlotte qui nous écrit, j'avais lu en fac, en découvrant Pascal, qu'il disait que la politesse avait été inventée pour éviter les guerres civiles. Et c'est vrai qu'en cette période où l'on a de plus en plus de mal à vivre ensemble, à se parler dans cet archipel français si bien décrit par Jérôme Fourquet, le minimum syndical, quand on exprime des désaccords, des divergences, c'est d'être poli, Olivier Babot.
Oui, il y a un livre formidable de Benedetta Craveri qui s'appelle L'âge de la conversation et qui montre de façon très intéressante, je crois que c'est sa thèse d'ailleurs, le doctorat, qui montre de façon très intéressante que le développement de l'art de la conversation a été un outil d'émancipation des femmes, en fait, et qu'elles avaient développé ça, ce qui est un peu d'ailleurs brocardé par Molière, c'était une façon de développer un code particulier, un monde qui était à elles, et dans lequel elles gagnaient une liberté qu'elles avaient évidemment pas civilement à l'époque.
Et vous allez même plus loin, Olivier Babot, vous écrivez dans le Figaro du 10 septembre 2019, la politesse permettrait de lutter contre l'ensauvagement du monde.
On disait tout à l'heure que la politesse, c'est la civilisation, donc c'est l'idée de ce qui justement est le rapport humain par rapport au rapport animal. C'est ce qui va permettre, la politesse, c'est ce qui permet de faire sa cour, parce qu'effectivement, c'est né à la cour. D'ailleurs, c'est pas étonnant d'ailleurs que le livre de Baldassare Castiglione, le livre du courtisan, ait été écrit la même année, paru la même année que le prince de Machiavel. Et dans le livre du courtisan, il dit c'est quoi les qualités du bon courtisan ? Il doit à la fois dire la vérité, mais il doit le faire avec certaines qualités, et c'est ça toute la discussion autour du livre du courtisan. Donc on va faire sa course et par exemple suggérer son désir amoureux par exemple, sans le dire de façon directe, et par exemple pouvoir retirer ses billes si on se rend compte par exemple qu'il n'est pas partagé. Et donc c'est un des mérites de la politesse, de faire sa cour et de pouvoir sans affront garder la face et s'en aller.
Dominique Picard, professeur en psychologie sociale, la politesse est une arme de séduction massive ?
Oui. Pourquoi pas? La politesse, elle sert à tout. Donc, pourquoi pas ça? Mais si vous permettez, je voudrais revenir sur cette histoire d'ensauvagement. Parce que c'est un terme quand même dont on n'est pas sûr de la définition. En fait, il ne faut pas croire que dans des groupes sociaux différents, disons, du groupe local, il n'y a pas du tout de règles de politesse et de codes. Tout groupe social, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, a ses règles de fonctionnement. Et moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que quand on interviewe des groupes, même de ce qu'on appelle les sauvageons, des groupes de non pas de gros délinquants, mais disons de gens qui respectent pas beaucoup les règles, il y a très souvent un mot qui vient dans leur bouche, c'est le mot respect. Et ils disent qu'on ne les respecte pas, et que ben dans ce cas-là, ils voient pas pourquoi ils respecteraient les autres. Et il me semble, moi, que depuis un certain temps, le mot respect est quasiment devenu un des nombreux synonymes possibles de politesse, c'est-à-dire être regardé comme quelqu'un qui doit dont l'existence compte. Donc même dans ces groupes-là, il y a des règles qu'on n'appelle pas de politesse, mais par exemple des règles de respect. On ne doit pas regarder fixer quelqu'un, on ne doit pas l'ignorer. Alors on lui dit pas forcément bonjour, mais on ne passe pas à côté de lui sans le regarder. Il y a aussi des règles de ce côté-là. Donc ça existe aujourd'hui et toujours. J'ajoute juste ça. Ce qu'on remarque, tous les intervenants dans votre émission remarquent qu'il y a toujours eu plusieurs mots à la fois pour définir la politesse. C'est parce que la politesse a plusieurs facettes qu'on a besoin d'avoir concurremment plusieurs mots.
Alors Olivier Babeau, j'aimerais citer l'un des bienfaits de la politesse, c'est la liberté. Pour vous, la politesse permet de cultiver la liberté intérieure. Alors expliquez-nous cet apparent paradoxe. La politesse apparaît bien souvent comme un corset.
Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, la liberté, elle protège, elle va créer un espace de liberté, un espace d'intimité qui va être celui de son vrai soi, en quelque sorte. Effectivement, c'est né à la cour, ça s'est développé, ce que montre Norbert Elias dans La civilisation des mœurs, par exemple, et puis bien d'autres auteurs, mais c'est l'idée qu'on va séparer le moi public et le moi privé. Alors, ça permet, aujourd'hui, ça paraît la duplicité, parce que dans un monde qui a publié l'idée qu'il faut en permanence qu'on soit pareil, mais la psychologie, elle montre plutôt qu'on a différentes facettes selon les endroits, selon les personnes, selon les interlocuteurs. On n'est pas la même avec son employeur, son conjoint, ses enfants. Et donc, on a à chaque fois une facette différente. Et la politesse, ça permet juste d'institutionnaliser ce rapport en fonction des moments.
Voilà. Alors, j'aimerais qu'on aborde une grande question. Faut-il faire preuve de politesse avec les gens qu'on n'aime pas du tout? Être poli avec quelqu'un qu'on apprécie modérément, est-ce faire preuve d'hypocrisie, Jean Pruvot?
Non, je ne crois pas. Les diplomates sont les premiers à être extrêmement polis. Parce que s'ils sont impolis d'emblée, il n'y a pas de résultat. Donc, je crois aussi, alors l'idée, c'est le propre des excellentes émissions comme la vôtre, ça fait surgir des idées que je n'ai pas mises dans l'ouvrage. Donc je réfléchis un instant que c'est prendre du temps aussi. Le temps de dire bonjour, d'avoir une salutation, d'avoir une formule, ça permet de réfléchir. C'est Mitterrand qui disait, ma signature est assez longue, ça me permet de regarder rapidement quand même le courrier. Bon, mais une formule de politesse, c'est ça aussi, avoir le temps, ne pas se presser. Se presser, c'est une impolitesse extraordinaire dans le monde arabe et dans le monde chinois, et à juste titre.
Pourquoi associe-t-on, Olivier Babeau, politesse et hypocrisie? Je rappelle que vous avez écrit un éloge de l'hypocrisie. Tiens, je cite justement à ce propos l'écrivain Léon Blois. « J'ai trouvé un homme d'une politesse exquise, irréprochable, une tranche de galantine pourrie, supérieurement glacée. » La galantine, je rappelle que c'est une terrine ou un pâté. Pourquoi on associe hypocrisie et politesse?
Parce que elle paraît créer une forme d'inauthenticité et réduire les rapports sociaux justement des rapports de surface. Et c'est vrai que s'il n'y avait que la politesse, sans doute les rapports sociaux seraient très ennuyeux, mais on ne peut pas rentrer en rapport de discussion profond avec tous les gens qu'on croise, avec les gens contre lesquels on se frotte dans le métro quand on passe parce qu'on doit ouvrir. Donc tous ces gens-là, ces moments particuliers, on ne peut pas rentrer dans ce type de rapport. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, et ça prend plus de valeur, rentrer en rapport plus intime avec d'autres gens dans d'autres contextes, et ces moments-là où il y aura des formes de franchise, mais qui vont aussi avoir leur forme de politesse.
Si je vous comprends bien, la politesse, cela permet d'éviter de s'envoyer à la figure des choses très franches, trop directes, sans détour, sans prendre de pincettes, au nom de l'authenticité.
Bah exactement, je pense que c'est justement avec ses ennemis qu'il faut être le plus poli, c'est plus précisément avec eux. plus vous êtes en amitié avec quelqu'un, plus vous allez pouvoir éviter peut-être les formules de politesse. Sur les canons de Louis XIV, il y avait écrit, vous savez, Ultima Ratio Regum, la dernière raison du roi, parce que quand on n'arrive plus à discuter, on se tape dessus à coups de canon, et ben justement la diplomatie, elle est là pour éviter ça, théoriquement.
Jean Pruvot.
Oui, alors, il y avait une pièce en 1838 que j'ai trouvée délicieuse et que j'ai lue, qui concerne l'homme infiniment poli. Alors cet homme infiniment poli, c'est le comble de la politesse. Il veut à tout prix raccompagner l'ambassadeur hollandais jusqu'à sa voiture. Celui-ci est un peu exaspéré par trop de politesse, donc il ferme le vestibule très rapidement. Mais cet homme-là, très poli, saute par la fenêtre, se foule le pied, mais dit quand même au revoir à la porte de son carrosse.
En tout cas, il peut exister une politesse haineuse. Hein. J'ai relevé ceci dans votre livre, Jean Pruvot, cette phrase du romancier et dramaturge Alexandre Arnoux. Ils ont beau dissimuler, se faire des mamours devant le personnel, on devine bien qu'ils se dévoreraient volontiers la moelle et les rognons.
Oui.
Bah oui, c'est vrai que ça permet d'éviter la guerre quand
oui,
même.
Oui.
Hein.
C'est et puis d'essayer de montrer aux autres qu'on reste civilisé, même si l'instinct n'est pas forcément.
Est-ce que c'est impensif de dire que les nouvelles générations sont moins polies que les précédentes, Jean Pruvot?
Oui, moi je le crois, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. La façon d'être, ou ce qui a été dit tout à l'heure par Mme Picard, concernant finalement ces formules comme respect, moi je vois qu'on me laisse la place très souvent dans le train, et que ce sont les jeunes qui le font, c'est normal. Mais je suis presque gêné de voir autant de gentillesse. Alors ils n'ont pas toujours la formule, ils n'ont pas toujours le mot, ça s'apprend. Ce qui correspond au cœur, il faut le développer.
Marie-Laure Zonchen, Femme Actuelle.
Alors le fameux trop poli, pour être honnête. Vous parliez, Olivier Babot, de l'hypocrisie. La case d'après, c'est quoi? Être obséquieux, trop en faire, alors même que tout le monde a bien compris que ces excès, je reviens sur l'exemple que nous donnait Jean Pruvot avec cette personne qui a sauté du balcon pour arriver et pour formuler ce dernier au revoir. C'est trop, il y a un moment où effectivement, c'est presque contre-productif.
Je crois qu'il y avait un adage latin qui disait « l'obséquiosité amène les amis et puis la vérité les éloigne » ou quelque chose comme ça, c'était assez pessimiste. Mais en effet, il y a des formes trop fortes, d'ailleurs c'est exactement l'anecdote que vous montriez, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre dans la politesse. En fait, la politesse justement, elle doit être là suffisamment pour qu'on ne la remarque pas trop. Ouais. C'est-à-dire que c'est la politesse de la politesse de ne pas être trop remarquable.
Elle ne se voit pas, la vraie politesse, elle ne
voilà,
se voit pas.
Exactement, un peu comme la charité ne doit pas se montrer, la politesse elle doit rester modeste et cachée. Si elle est trop voyante, justement, elle devient une théâtralisation, une mise en scène de soi qui, à ce moment-là, est de mauvaise aloi.
Oui, alors, tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié ce que vous évoquiez sur les tempéraments, la timidité, par exemple. Et c'est vrai que la timidité pousse à croire qu'on fait une impolitesse à chaque seconde. Dans la fameuse pièce dont je parlais, le personnage qui est poli par excès, mais vraiment par nature, à un moment donné, il dit « Quelle journée, je n'ose récapituler le nombre de bévues que je commets. Je commets une inconvenance à chaque mot. » Et on est parfois comme ça, dans des situations où on est devant quelqu'un qui nous paraît supérieur, et on ne sait plus que dire, et on en arrive à mal formuler les choses. C'est là où on a besoin de l'aide de celui qu'on croit supérieur pour éviter qu'on soit maladroit, gauche. Mais c'est une forme de gentillesse aussi. Parfois, il y a une politesse dans la gaucherie qu'on perçoit et qui n'est pas non plus détestable.
Il est si gentil, si beau, si agréable. Éric Fibiot et ses choses presque vues à 10h43.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Éric Fibiot.
Merci beaucoup, Ali, de me donner la parole. C'est très gentil de votre part, hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donne ma parole, moi, que je vous la rends bientôt. Je vous en prie, c'est bien naturel. Je vous sais très à cheval sur la politesse, Ali, alors que vous n'êtes pourtant pas très cavalier comme garçon. Vous remarquerez la subtilité de cette phrase. Ouais. Alors, je voulais tous vous féliciter dans ce studio. Il reste une grosse dizaine de minutes d'émission et pour l'instant, vous avez été très polis les uns avec les autres. Hein. Vous n'avez pas coupé la parole, vous avez écouté l'autre. Vous lui avez même parfois souri, vous n'avez pas trop regardé ailleurs quand quelqu'un parlait. Alors, j'ai tout de même noté quelques entorses à ses règles, ce qui bouffait sans doute de belles jambes, mais vous n'avez pas dit de gros mots. Merci et bravo. Cela dit, peut-être que ça vous démange de dire un gros mot avant la fin de l'émission. Donc si vous avez envie d'exprimer un mécontentement, un agacement, allez-y. Mais souvenez-vous que la France entière vous écoute. Alors choisissez plutôt un mince alors. Avec un point d'exclamation, un point levé éventuellement, mais pas plus, pas de geste violent. Cela dit, c'est vrai, mince n'est pas un gros mot. Et oui, les mots ont du poids, et ils ont même aussi une taille. Il y a les grands et les petits mots. En général, les grands mots arrivent tout de suite, tandis que les petits mots sont doux. Pardon, je digresse, mais puisque les mots ont du poids, j'ai le droit. Alors moi, j'aime bien la politesse, c'est parfois contraignant, mais la contrainte s'impose. Et j'aime beaucoup la définition que vous donnez dans votre livre, Jean Pruvost, celle de Ghassan Khoury, dans son livre « Averse de mots passés », très beau titre, au demeurant. La politesse, c'est ce qui nous permet de nous compliquer la vie. La politesse complique la vie, c'est vrai, mais elle est censée aplanir les agacements et les tensions des relations sociales. Aplanir comme polir, hein, vous l'avez dit, puisque la politesse vient de ce verbe-là, polir. Polir les relations afin d'éviter qu'elles ne soient polaires. Mais je dois avouer qu'il y a des gens avec qui je n'ai pas du tout envie d'être poli. Si je peux me permettre, c'était... Par exemple, un type assis dans une voiture qui me ferait un doigt d'honneur sous prétexte que je lui dirais de partir. Je n'ai pas du tout envie d'être poli avec lui. Si je peux me permettre, d'ailleurs, ce serait plutôt un doigt d'honneur de leçon. Résultat, le type a été renvoyé à ses chères études et c'est tant mieux. Mais si ce type me demandait d'être poli à son égard, je lui répondrais sûrement comme le fait Bartleby, le héros de la nouvelle d'Herman Melville. Alors en deux mots, hein, Bartleby est un homme qui travaille comme clerc de notaire à New York au milieu du 19e siècle. Et un jour que son patron lui demande un travail, il répond « I would prefer not to ». Je ne préférerais ne pas. À partir de ce moment, Bartleby donne cette même réponse à chaque question. Je ne préférerais ne pas. Voilà ce que je répondrais à ce type qui me demandait d'être poli avec lui. Je ne préférerais ne pas. Ne pas être poli avec lui, c'est une résistance passive, un acte de refus non violent mais ferme et définitif. Surtout, ce que j'aime dans cette réponse et dans cette nouvelle de Melville, c'est qu'elle tient compte du rapport de force entre Bartleby et son patron. Mais cette réponse résiste à tout. Elle est finalement d'une politesse extrême et d'une fermeté qui l'est tout autant. Un acte de résistance formidable. Elle enferme en elle une légère ironie et c'est surtout une façon pour Bartleby de dire « Permettez-moi de choisir la place que je veux occuper dans le monde ». Cette politesse-là vaut toutes les invectives et je rêve que les réseaux sociaux suivent parfois le comportement de Bartleby. Car oui, être à la merci de la politesse a quelques bienfaits. Voilà Ali, je vous rends la parole.
C'est un vœu pieux. Les choses presque vues d'Éric Libiot à partager et à podcaster sur l'appli France Inter. Jean Prouvot.
Oui, alors ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est les formules, les mots, quels mots utiliser. Et tout à l'heure, on m'avait demandé comment m'était venue l'idée du livre. En vérité, il y avait une chronique que j'avais réalisée sur le mot « goodbye ». On m'avait demandé d'où venait le mot « goodbye ». Alors, je ne savais pas trop, j'ai cherché. Et ça vient de « God be with you ». Et donc, on a complètement oublié. « Be with you » s'est transformé en « BWE » pour aller plus vite.
« Dieu soit avec nous ».
Voilà, « Dieu soit avec nous ». Et voilà comment « goodbye » est arrivé. Et le « bonjour », c'est exactement la même chose. Au début, c'est en deux mots, je vous donne le bonjour, c'était le moment de la communion, de l'Eucharistie, puis c'est devenu une formule au XVIIe siècle, et on a même dit que c'était seulement le supérieur qui pouvait dire le bonjour à l'inférieur. Alors, vous voyez, ça a heureusement bien évolué, c'est devenu égalitaire, mais bonjour n'a pas toujours été ce qu'on croit.
Les choses presque vues d'Éric Libiot à partager et à podcaster sur l'appli France Inter. Dans un instant, nous verrons quelles sont les règles fondamentales de la politesse, ce sera juste après Fishback de l'instant à 10h48.
Ma bouche vit dans ta bouche, mes yeux vivent. j'en fais partie. Je te prends, oui, je te prends comme on prend un pli. Car j'ai de l'instinct et de la violence pour deux. Oui, j'ai de l'instinct et de la violence pour deux.
Ouais.
Ma bouche vit dans ta bouche. Mes yeux vivent dans tes yeux. Qu'est-ce qu'il nous reste à part des gestes? Ma bouche vit dans ta bouche. Mes yeux vivent dans tes yeux. Qu'est-ce qu'il nous reste à part des gestes?
Fishback, interprété de l'instinct, et ça plaît beaucoup à notre réalisatrice Claire Destacan qui danse dessus en régie.
Et toi, mon brave.
Quoi ?
Grand bien vous fasse.
Votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule !
Ali Rebéi.
C'est pas la politesse qui t'étouffe, toi.
Ça te dévrise.
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse aux bienfaits de la politesse. Dominique nous écrit « Pour moi, la politesse ne sont pas seulement des mots, mais un ton, des gestes, une porte qu'on tient pour nous laisser passer, par exemple. » Vous êtes d'accord avec ça, évidemment, Dominique Picard, professeur en psychologie sociale.
Oui.
C'est aussi des gestes, hein, la politesse, hein, c'est pas simplement des mots.
Et puis, c'est une tenue. Regardez la journée de la courtoisie et de l'élégance dans ce collège, courtoisie et élégance. Mmh. Donc ça fait partie de la politesse.
Bonjour Laurence Caracalla.
Bonjour Ali.
Vous avez publié Le savoir-vivre pour les nuls chez First. À une époque, les ouvrages de politesse et de savoir-vivre de la baronne Staff ou de la baronne de Rothschild ont connu un très grand succès en librairie. Ce type d'ouvrage se vend encore ?
Ça se vend très très bien, on n'imagine pas comme les gens sont assoiffés de connaître les codes de politesse. Alors évidemment la baronne Staff c'était à la fin du 19e siècle et aussi la baronne de Rothschild dans les années 80, c'était un peu destiné à la haute société où en tous les cas les gens étaient assoiffés de connaître comment ça se passait dans la haute société. Aujourd'hui en tous les cas en ce qui me concerne, et je pense que je ne suis pas la seule, ce sont plutôt des livres de savoir-vivre du quotidien. C'est-à-dire dans le métro, dans la rue, chez son boulanger. C'est ça qui aussi intéresse les gens, parce que non seulement ça les intéresse pour leur vie de tous les jours, mais aussi dans leur vie professionnelle, il faut savoir se comporter, bien se comporter.
Alors vous proposez un petit test. Pendant une journée, soyez souriant, délicat, avenant, et on vous trouvera irrésistible.
Écoutez, au fond, on a tous envie d'être aimé, je crois. Et ça fait partie aussi de la politesse. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais amusée à dire ça de manière un peu pour rigoler. Mais en réalité, si vous demandez à quelqu'un d'être très très gracieux pendant une journée, il va voir que sa journée va être totalement transformée. Il aura le monde à ses pieds. J'espère pour eux.
Éric Libio, hein, vous notez. Hein. Bon. Quelles sont pour vous, Laurence Caracalla, les 5 ou 6 règles fondamentales du savoir-vivre et de la politesse qui nous serviront en toutes circonstances?
Alors, évidemment, d'abord, il y a le merci, le remerciement. Et remercier tout le monde, surtout pas en fonction du rang social qui est en face de vous, parce que là, c'est vraiment le comble de la grossièreté, à mon avis. Mais... remercier évidemment
avec cœur,
c'est-à-dire que si le serveur vous apporte gentiment un café, évidemment on le remercie, ce qui n'est pas toujours le cas. Regardez un peu autour de vous dans les cafés, parfois on néglige le remerciement pour les serveurs, mais évidemment ça devrait être un automatisme, ce remerciement là on apprend ça aux enfants depuis qu'ils sont tout petits, j'espère en tout cas.
Et le sourire doit être aussi automatique qu'un merci également, hein.
Le sourire, c'est une vitrine, c'est votre vitrine. Vous pouvez être le plus courtois possible, connaître les règles du savoir-vivre par cœur. Si vous souriez pas, ça ne sert strictement à rien. Il faut savoir sourire, il faut être comment, quel est le terme ?
Chaleureux.
Être chaleureux. Si les gens vous accueillent dans les règles et qu'ils font la tête, je vois pas l'intérêt, ça ne sert absolument à rien.
Et puis savoir s'excuser également.
Alors s'excuser, c'est un vaste sujet parce que il y a beaucoup de gens pour qui c'est absolument impossible de s'excuser, s'avouer qu'on a eu tort, ils n'y arrivent pas. Parce que s'excuser, c'est être humble, et les orgueilleux, ils ont beaucoup de mal avec ça. Mais une fois qu'on a compris que s'excuser, ça pouvait être aussi un énorme soulagement, que se tromper, ça peut arriver à tout le monde, je trouve que c'est un très grand pas, et c'est aussi une histoire de maturité. Je crois qu'en vieillissant, on y arrive beaucoup plus facilement.
Tiens, Laurence Caracalla, quelles sont pour vous les règles du savoir-vivre et de politesse dans les transports en commun, la règle fondamentale?
Parce qu'il y en a plein, des règles. Le problème des endroits clos, comme le métro par exemple, c'est que il faut respecter les gens autour de soi, et ça, les gens l'oublient complètement. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont au téléphone, ils conversent avec quelqu'un. Pire, ils mettent le haut-parleur, donc on assiste à une conversation aller-retour, j'allais dire, sur des choses qui nous intéressent absolument pas, alors que nous, on est en train d'écrire un roman, de lire un roman et d'avoir très envie d'être concentré sur ce qu'on fait. Il y a évidemment ça. Évidemment, je vais pas vous dire de laisser la place aux personnes les plus âgées, même et surtout ne pas faire comme si on l'avait pas vu. Hein, on connaît tous cette astuce par cœur. Et puis aider les mères de famille qui sont, vous savez, parfois on assiste à des scènes atroces. On voit une mère de famille avec d'un côté dans ses bras son bébé, d'autre côté la poussette, et elle essaye de descendre dans le métro. Là, il faut quand même se précipiter. Et puis aussi tous ces gens qui s'adossent à la barre centrale, vous savez, du métro, et qui nous empêchent de nous y accrocher. Et c'est comme ça qu'on peut se casser la figure. Enfin, il y en a des multitudes, il y a le strapontin, on se lève brutalement, on le fait claquer, tout le monde se retourne, s'il y a un cardiaque dans la rame, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, ne pas pousser les gens quand la rame est bondée, attendez le suivant, parce que c'est l'enfer. Et pareil, n'attendez pas le dernier moment pour en sortir. Vous allez écraser à peu près tous les pieds qui sont autour de vous. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je crois qu'on peut écrire un livre entier sur le savoir-vivre dans les...
On peut lire le vôtre, en tout cas, Laurence Caracalla.
On peut lire le mien, oui.
Une dernière règle, peut-être, lorsque l'on converse, justement, quelles sont les règles fondamentales? Je cite d'ailleurs Jules Renard, que j'ai repéré dans votre livre, Jean Pruvot. La conversation est un jeu de sécateur où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu'elle pousse. Une règle, quand on converse
alors,
entre
déjà,
amis...
Avant la conversation, pour moi, une règle très importante, c'est que lorsqu'on arrive dans un groupe et qu'on est accompagné par quelqu'un qui ne connaît personne, c'est présenter cette personne à tout le groupe, l'introduire, donner son nom, dire même deux, trois choses sur elle pour engager justement cette conversation dont vous parlez. Et puis surtout, quand on parle aux gens, on les regarde droit dans les yeux et on ne regarde pas ses chaussures ni derrière leur épaule. Et on sourit.
Dominique Picard, c'est vous qui avez le mot de la fin, vous avez 30 secondes.
D'accord.
Vous avez le mot de conclusion, ma chère Dominique Picard.
Bon, eh bien, les règles de politesse sont multiples, comme on vient de le voir, mais elles reposent sur des principes, et ces principes eux-mêmes peuvent être regroupés en quatre catégories, qu'on peut appeler les quatre piliers de la politesse, qui sont la sociabilité, privilégier toujours le confort des groupes à son confort personnel, l'équilibre, qui fait que tout le monde doit à la fois donner et recevoir, le respect d'autrui, qu'autrui se sente bien et reconnu, et le respect de soi, se présenter devant les autres comme une personne respectable, c'est aussi une façon de les honorer. Ça va, 30 secondes?
C'est très très bien, ma chère Dominique Picard, je vous remercie. Merci également Olivier Babou d'être venu. Merci Laurence Caracalla, Le savoir-vivre pour les nuls, c'est chez First, et je recommande vraiment votre livre Jean Pruvot, La politesse, c'est publié chez Taillandier, et merci au Tic et Tac du mardi, Marie-Laure Sunshine et Eric Libio. Vous pouvez podcaster cette émission sur l'appli France Inter et sur toutes les plateformes. Demain, on s'intéresse au développement du cerveau des enfants entre 0 et 7 ans avec Cerveau et Psycho.